Attention Daniel, hein, Didier Porte, Stéphane Guillon et toi, vous allez finir coulé dans le béton. Hein. Continuez quand même et tenez bon la rampe. Bonsoir à tous, c'est Pierre de Saône-et-Loire.
Bonjour Daniel, bonjour les AMG. C'est Sophie de la Creuse. Voilà, je vous fais part d'une petite réflexion suite au début de l'émission que j'ai entendue aujourd'hui, mardi. Comment la France, symbole mondial de la démocratie, pourrait-elle basculer dans la dictature? En s'en prenant à la liberté de parole, bien sûr. Alors, longue vie à la Bastille, j'y suis. Et surtout, surtout, touchez pas à nos guignols, grâce auxquels on rit encore de la misère et de la bêtise humaine. On pourrait bientôt en vomir. Salut.
Bon, alors je viens de recevoir la liste donc des gens qui seront virés dans quelques mois. Donc je vous la fournis. Hein. Alors Daniel Mermet, bien sûr, viré. Stéphane Guillon, viré. Didier Porte. Nicolas Demorand et Kathleen Evin. Ça, c'est une première liste. Il y en aura d'autres. Hein. Alors, serait remplacé, donc, M. Daniel Mermet, on a évoqué Gilbert Montagnier. Concernant Stéphane Guillon, j'ose même pas dire ce que je pense de Stéphane Guillon, tellement c'est insupportable ce qu'il fait. Il serait remplacé par David Douillet. Concernant Nicolas Demorand, une hésitation, Doc Gynéco ou Didier Barbelivien, on ne sait pas encore. Kathleen Evin, oui, Kathleen Evin, parfaitement. C'est pas parce qu'elle est brillante, cultivée et que ses émissions sont enrichissantes qu'il faut la conserver. Kathleen Evin, donc, on évoque ou Poujadas ou Laurence Ferrari. Donc, on n'est pas encore très très fixé. Je vous donnerai le résultat définitif quand je l'aurai. Voilà. Bah, bonne journée à tous et puis à bientôt pour un France Inter propre et enfin audible. Voilà, c'était Frédéric Damien.
Oui, bonjour à tous. J'aimerais vous lire un petit texte que j'ai trouvé dans Notes et Contre-Notes de Jeanne Ionesco. Les gens aujourd'hui ont une peur atroce et de la liberté et de l'humour. Ils ne savent pas qu'il n'y a pas de vie possible sans liberté et sans humour, que le moindre geste, la plus simple initiative, réclame le déploiement des forces imaginatives qu'ils s'acharnent bêtement à vouloir enchaîner et emprisonner entre les murs aveugles du réalisme le plus étroit, qui est la mort et qu'ils appellent la vie, qui est la ténèbre et qu'ils appellent lumière. Je prétends que le monde manque d'audace et que c'est la raison pour laquelle nous souffrons. Et je prétends aussi que le rêve et l'imagination, et non la vie plate, demandent de l'audace et détiennent et révèlent les vérités fondamentales, essentielles. Et même que, si les avions sillonnent aujourd'hui le ciel, c'est parce que nous avions rêvé l'envol avant de nous envoler. Il a été possible de voler parce que nous rêvions que nous volions. Et voler est une chose inutile. Ça a été écrit en 1962. Quel visionnaire, ce Ionesco.
Ici, Attaque Champigny. Demain, jeudi 12 mars à 20h, au studio 66 à Champigny-sur-Marne, près de la mairie, venez assister à la projection du film documentaire Chomsky et compagnie, réalisé par Olivier Azam et Daniel Mermet. Daniel sera là pour le débat, c'est 4 euros l'entrée. On vous attend à demain soir, 20h à Champigny.
Daniel, je viens d'entendre Mireille sur France Inter qui accueille des sans-papiers dans son petit deux pièces de Calais avec sa petite voix douce. Mireille qui doit tout juste gagner le SMIC et qui fait honte à notre France riche, arrogante. Daniel, s'il te plaît, fais un reportage sur tous ces gens humbles et généreux de Calais qui risquent gros et qui méritent toute notre admiration.
Oh, ça fait longtemps que les militants de Calais, ceux qui à Calais dans la région soutiennent les sans-papiers, ont utilisé et utilisent et savent utiliser, ils ont bien raison, le répondeur de là-bas si j'y suis. Mais effectivement, c'est un grand sujet et semble-t-il un excellent film. Je parle aussi, je pense aussi à Chomsky et compagnie, notre film qui effectivement sera projeté ce soir au studio 66 à Champigny-sur-Marne. Et j'animerai ensuite le débat. Et le film est un peu partout en ce moment, suivi de débats. En ce moment, il y a une semaine citoyenne en Dordogne. Le film est un peu partout. La semaine prochaine, il sera à Narbonne, au théâtre de Narbonne, le 16 mars, etc. Mais pour avoir toute la liste des projections, des salles et des animations, vous allez sur le sur là-bas.org, là-bas.org, ou sur le site du film Chomsky et compagnie. Bon, aujourd'hui, alors là, on va tourner une page, c'est terminé, on va dire vive la crise, et on va faire bouger les lignes. Ah, ça, c'est la grande affaire, faire bouger les lignes. Comment on va s'y prendre pour faire tout ça, se tourner résolument vers l'avenir, trouver la solution et faire bouger les lignes? Eh bien, on va aller avec Pascal Pascariello et Renaud Lambert-Roussat au Salon des Entrepreneurs. Et oui, vous faites partie de ces millions, de ces 15 millions de Français qui rêvent d'ouvrir leur boîte, de monter leur entreprise, etc. Eh bien, cette émission vous concerne, et je crois que d'ici à 16h, on pourra tous ensemble chanter « Vive la crise est finie ». Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Ouais, salut à tous. Pour ce qui concerne le repère de Tourette dans le Var, il aura lieu vendredi 13 au Latitude derrière Intermarché à Tourette à partir de 19h. Ciao, viva. Portez-vous bien.
Salut Daniel, merci d'avoir passé mon message suite à la manifestation d'hier dans les rues de Saint-Denis de la Réunion. Je confirme mes propos et infirme le point de vue de TF1 qui montrait que les forces de l'ordre n'avaient fait que réagir au caillassage de certains manifestants. En fait, nous avons été pris à revers dans les rues de la ville qui a été quadrillée en quelques minutes par les CRS avec des unités extrêmement mobiles, voitures banalisées. Ce qui montre bien que l'opération disproportionnée avait été minutieusement préparée et nullement improvisée afin de tuer le mouvement social. Allez, à plus, Olivier.
Oui, bonjour, Christian-Marc Bosseno de Parisien Sorbonne. J'apprends incidemment que le jour où il y a une grosse manif pour la défense de l'école, notre président se produit à l'école militaire à 17h. Bon, c'est pas grave. Mais c'est juste un hasard de calendrier, ce serait bien d'être à l'école militaire vers 17h. Bon courage.
Salut Mermet, ici la Nièvre qui te parle en direct. Les parents d'élèves, les élus, les habitants, nous organisons la nuit des écoles à l'école de Teinturie à partir de 19h ce vendredi 13. Pour manifester notre mécontentement à l'égard de l'inspection académique qui veut fermer l'une de nos classes et donc l'une de nos écoles. Aujourd'hui, les écoles rurales sont menacées. Nous sommes tous concernés. Alors, habitants de la Nièvre, habitants des environs de Teinturie, Aluy, Biche et Brinet, vous êtes les bienvenus pour partager cette soirée avec nous. Merci Mermet, merci pour tes émissions. Et tenons bon, hein, parce que la bataille va être rude. Merci, au revoir.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Agnès du Café Repère de Lons-le-Saunier. Demain, jeudi 12 mars, au bar Le Tiffany chez Albert, rue Rouget de Lille, à partir de 20h30, Café Repère sur le thème « Rencontre avec le LKP du Jura ». Je salue les Cafés Repères avec qui j'ai de nombreux contacts et encourage notre force. Les Cafés Repères de Dole, Besançon, Bourg-en-Bresse, Aix-en-Provence, Nantes, Paris 14e, 19e, 20e, et j'en passe. Et oui, nous ne restons pas isolés dans nos villes et nos campagnes. Nous nous organisons, nous communiquons, et il faudra vraiment faire avec nous si on touche à Daniel et à son émission. Je vous embrasse.
Quelles autres lignes ont bougé depuis l'arrivée de Laurence Parisot? On voit ça tout de suite en images.
Le 5 juillet 2005, pour la première fois, les entrepreneurs élisent une femme.
Laurence Parisot prend 4 engagements. Rappelée lors des conférences de presse, discours, rencontres, déplacements, émissions radio et télé, qu'il faut créer la richesse pour ensuite la redistribuer.
Deuxième engagement, remettre l'entreprise au cœur de la société. Avec les nouvelles commissions Dialogue économique et Nouvelle génération, les entrepreneurs sont au cœur du débat.
Troisième engagement, avec une action énergique de lobby, le MEDEF agit au quotidien pour alléger le fardeau fiscal et réglementaire. Avec 85 fédérations, 148 MEDEF territoriaux, 30 000 mandats, 750 000 entreprises.
Nous faisons bouger les lignes.
C'est Daniel Mermet avec Pascal Pasquariello et Renaud Lambert. C'est là-bas si j'y suis. Faisons bouger les lignes.
Mettre l'entreprise au cœur des débats. Faire rentrer l'entreprise dans les programmes. Faire entendre la voix de l'entreprise.
Laurence Parisot.
Liberté, liberté d'entreprise, liberté d'entreprendre, esprit d'entreprise. Simplifier et faciliter. Réhabiliter le travail, avenir, futur, emploi, compétitivité, dialogue social, flexibilité, souplesse, l'homme au cœur de l'entreprise, l'entreprise à visage humain, l'entreprise au cœur de la société.
Chers amis de l'entreprise, l'entreprise c'est la vie, et ceci est un essai son.
Bienvenue, bienvenue dans le monde enchanté de l'entreprise. Création, innovation, reprise, franchise, développement, financement, transmission, vous en rêvez tous, oui, vous en rêvez tous. Ah, bronzé toute l'année. Être en première, la Rolex avant 50 ans, eh oui, vous en rêvez. Vous êtes, selon l'IFOP, 15 millions Françaises et Français à vouloir créer une entreprise, à avoir votre boîte, à diriger votre boîte. Chaque année se créent en France des dizaines de milliers d'entreprises. En 2008, 327 400 entreprises ont été créées. De plus en plus, chaque jour, des entreprises se créent. Dans quel domaine ? C'est ce qui nous a passionnés avec Pascal et Renaud. Dans quel domaine allons-nous créer notre entreprise ? Eh bien, vous avez la green economy, par exemple. Ça se développe, la green economy. Le développement durable. Le business anti-crise. Et oui, la crise est un business. Le monde étant une marchandise, la crise est une marchandise. Et le business anti-crise se développe. Le low cost, et oui, le low cost. Prendre l'argent là où il est, c'est-à-dire chez les pauvres. Développer le low cost. Internet, ouhou, Internet, alors là, il y a vraiment des entreprises à créer. Les web entreprises. Et puis il y a toujours de plus en plus le service à la personne, car nous vivons de plus en plus vieux et nous coûtons de plus en plus cher dans nos vieux jours. Alors voilà, là aussi, il y a un domaine à développer qui est en constante progression. Et puis, il y a la santé, l'éducation, l'action sociale, là aussi, des secteurs en développement. Voilà pourquoi chaque année se tient le Salon des Entrepreneurs. C'était les 4 et 5 février dernier au Palais des Congrès à Paris. Et parmi les innombrables visiteurs passionnés, il y avait Pascal Le Pasquariello et Renaud Lambert. Alors ces entrepreneurs, bien sûr, ils font rêver. Mais à quoi ressemblent-ils exactement? Et à quoi ressemble leur vie? Et puis, il faut le dire entre nous, sont-ils aimés comme ils le mériteraient? N'y a-t-il pas quelque chose, un peu d'ironie par moment à leur égard? Si on veut, comme le veut Laurence, parce que pour nous, Parisot, c'est Laurence, si on veut vraiment mettre l'entreprise au cœur de la cité, au cœur de la société, afin de créer les richesses, car il faut d'abord créer les richesses avant de les redistribuer. Si nous voulons mener à bien ces opérations de lobbying qui ont pour but d'alléger le fardeau fiscal et surtout les charges qui pèsent sur les entreprises, si nous voulons tout cela, et nous le voulons bien sûr, Français, car nous voulons sortir de la crise et nous voulons transformer cette crise en opportunité, eh bien, il faut absolument nous écouter jusqu'à 16h d'abord, et ensuite mieux connaître ce monde merveilleux de l'entreprise et des entrepreneurs. Jusqu'à 16h, là-bas, si j'y suis, fait bouger les lignes.
Et si tu aimes ton entreprise, il est grand temps que tu le dises. Si ton patron est ton ami, tu dois faire la fête avec lui. Alors laisse tomber ta cravate, Aujourd'hui tout le monde s'éclate. Oh, oh, oh. J'aime ma boîte. Oh, oh, oh. J'aime ma boîte. Oh, oh, oh. J'aime ma boîte. J'aime ma boîte. Oh, oh, oh. J'aime ma boîte. C'est le troisième jeudi d'octobre et bientôt partout en Europe. Ça ne dure qu'une seule journée. On s'en souvient toute l'année. Il est grand temps de faire la fête et de répéter à tue-tête. Oh, oh, oh,
j'aime ma boîte.
Oh, oh, oh,
j'aime ma boîte.
Oh, oh, oh,
j'aime ma boîte. J'aime ma boîte. Oh, 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 j'aime ma boîte.
Oh, j'aime ma boîte.
J'aime ma boîte.
Oh, 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 j'aime ma boîte.
Oh, oh, j'aime ma boîte.
Grégoire Sainty est chef d'entreprise. Grégoire Sainty a longtemps vécu aux États-Unis.
J'ai vécu longtemps aux États-Unis. On me rappelait à chaque fois que entrepreneur is a French word, est un mot français. Mais ça n'était plus un mot qui avait droit de cité et donc qui avait perdu son lustre, ses valeurs, sa dynamique.
Grégoire se pose donc une question.
Comment rendre populaires les entrepreneurs? Parce que les entrepreneurs, c'est que du bonheur.
Eh oui, que du bonheur. Mais pourtant, si peu de reconnaissance. En 1961, déjà, l'intellectuel Ayn Rand se rangeait du côté des opprimés pour dénoncer l'injustice dont était victime le patronat américain. Elle expliquait
« Aujourd'hui, tout le monde, ou presque, salue la défense des droits des minorités comme un principe moral supérieur. Pourtant, toutes les formes hideuses, brutales d'injustice perpétrées contre les minorités raciales ou religieuses, les hommes d'affaires les subissent. »
C'était les États-Unis de 1961. En 2008, la souffrance de la dernière minorité opprimée est restée un peu taboue en France.
Il n'y a pas une autre catégorie sociale, pas un autre groupe de la population qui est ainsi traité.
Laurence Parisot.
Là, on va avoir vraiment un enjeu majeur si on continue à regarder les entreprises de cette façon-là.
Alors, pour faire bouger les lignes, pour aider à faire avancer les mentalités, là-bas, si j'y suis, a cherché à rencontrer ses patrons en souffrance. La tâche n'a pas été facile. Harcelés par le reste de la société, ses patrons se regroupent dans des ghettos fermés, où ils vivent entre eux, comme le quartier de la Défense, à Paris. C'est là, après un long travail d'approche, afin de gagner sa confiance, que nous avons pu rencontrer Jean-Pierre Le Tartre, président d'Ernst & Young France et Luxembourg, au 28e étage de la tour qui héberge les 3000 salariés de sa société. Alors, inutile de le cacher. Pour qui n'est pas habitué à rencontrer les laissés-pour-compte du patronat, la rencontre avec l'un de ses membres n'a rien de facile. Jean-Pierre a le visage marqué par l'adversité. Un petit peu bouffi par la nourriture trop riche, il affiche un rectus nerveux dont on devine qu'il trahit la rudesse des années passées dans des fauteuils trop larges, à fouler des moquettes trop profondes, à revêtir des étoffes trop rares. Jean-Pierre joue nerveusement avec sa montre de luxe et il faut le convaincre à nouveau de l'utilité de son témoignage pour éclairer le grand public avant qu'il n'accepte de s'exprimer. Un dernier verre de champagne et il se lance.
J'aimerais que vous m'expliquiez ce qui, dans votre parcours à vous, en tant qu'entrepreneur, créateur, quels obstacles avez-vous pu rencontrer, quelles difficultés, quelle incompréhension de gens qui vont dire « Ah, mais vous êtes un entrepreneur, donc vous êtes ceci, vous êtes cela », je ne sais pas moi, une certaine souffrance dans votre travail, quoi.
Oh, la souffrance dans le travail.
Jean-Pierre est un peu désarçonné par notre question, il tente d'abord de nier sa douleur. Il faut éteindre le micro, le réconforter. Une larme est versée, vite essuyée dans un mouchoir de soie, et puis Jean-Pierre nous fait l'amitié de nous ouvrir à nouveau son cœur.
Oui, non, je veux dire, oui, c'est sûr que...
Qu'il y a encore du boulot, quoi. Qu'il y a encore du boulot.
Eh oui, il y a encore du boulot, il y a encore du boulot, il y a encore du boulot. La question a été posé il y a bien longtemps par Pierre Bourdieu, qui faisait une distinction, vous le savez peut-être, entre le dominant et le dominé. Mais, disait Pierre Bourdieu, qu'est-ce qui domine le dominant ? Ah ah ah, intéressant. C'est la question qui se pose et qui va se poser jusqu'à 16h.
Bonjour, je m'appelle Grégoire Sainty, je suis un des trois cofondateurs des Journées d'entrepreneurs qui ont pour objectif trois choses. Un, c'est de rendre populaire à nouveau l'entrepreneur en France, qui aujourd'hui n'est plus suffisamment reconnu, enseigné et efficacement aidé. Il y a plein de gens qui se mobilisent, mais il n'y a pas assez qui est fait, et c'est ça qu'il faut remettre au cœur de notre économie. Il y a une mobilisation sans précédent, par exemple, de la part du gouvernement, mais ce n'est pas que du gouvernement, ce n'est pas une cause de droite ou de gauche. On aura réussi le jour où la fête, les journées d'entrepreneurs, ce sera comme la fête de la musique. C'est en architecture ouverte, et tout le monde y participe, que ce soit dans les écoles, dans les classes, dans les collèges. Et voilà, parce qu'on est, c'est notre slogan, on est tous entrepreneurs quelque part.
Entrepreneur de nos vies, chacun, c'est ça ?
On est entrepreneur de nos vies, de nos destins, et puis c'est comme ça que la vie est intéressante aussi. Hein.
Aventurier.
Moi, j'ai terminé mes études aux États-Unis et c'est là-bas que j'ai créé ma première entreprise.
Chasseur de rêves.
N'ayez pas peur, cultivez la culture de l'audace et le goût de l'impossible.
Passionné.
Il n'existe plus d'autres ascenseurs sociaux à part l'entrepreneuriat. Il faut que ça se démocratise, il ne faut plus que ça soit un sport de haut niveau exercé uniquement par quelques fous, par quelques audacieux, mais il faut qu'il devienne plus populaire.
Entrepreneur, demain, cela pourrait être vous. Les journées de l'entrepreneur, du 17 au 23 novembre 2008.
Mais attention, aventurier, bien sûr, créateur, certainement, entrepreneur. À tout coup, nous sommes tous des entrepreneurs. Mais attention, attention, il y a un peu un revers à cette médaille. En tous les cas, des ombres et des difficultés.
On parlait de la difficulté de ne pas grossir quand on est entrepreneur.
Si vous en êtes là, on a pour une heure. Hein.
Pourquoi vous aussi ?
Non, parce que alors, moi, j'ai beaucoup grossi. Parce qu'effectivement, il y a des cocktails, il y a des salons, il y a des soirées. Donc j'ai pris à peu près 4-5 kilos par an, gentiment mais sûrement.
Sandra Legrand. Créatrice de richesse.
Et je me suis décidée cette année à les perdre. J'en ai perdu 25 en 6 mois. Voilà. Et je ne compte pas les reprendre.
Et est-ce qu'il y a eu des moments difficiles quand même ? Est-ce que vous avez souffert aussi en tant qu'entrepreneur ?
En tant qu'entrepreneur, une horreur. On se demande même pourquoi on continue. Il y a des moments, c'est l'enfer, je veux dire. Tout le temps.
Denis Jacquet, entrepreneur.
Au bout d'un moment, l'argent n'est plus une fin en soi pour nous. On a envie de faire quelque chose pour les autres. Il y a un des membres de mon bureau qui s'appelle Nathaniel Wright, qui est le patron des Wall Street Institute, qui dit « Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à faire un petit peu de bien tous les jours. » Et grosso modo, si on arrive à faire beaucoup de bien tous les jours dans quelques années, c'est vraiment ce qu'on peut se souhaiter de mieux.
Vous avez un salaire à peu près de combien ?
En fait, il évolue en permanence. C'est-à-dire, si on me demande mon salaire il y a 2 ans, il y a 8 mois, et ce qui sera dans 15 mois, ça va être 4 chiffres différents, donc ça évolue vraiment.
Alors 4 chiffres différents.
Il y a 2 ans, j'étais peut-être dans une frange de 3 ou 4. Aujourd'hui, on évoluerait plutôt dans une frange de 7 à 10. Bon.
7 à 10 000 euros par mois aujourd'hui.
Oui, mais l'idée...
On ne se rend pas compte des fluctuations qu'il peut y avoir de temps en temps alors.
Ah, mais c'est énorme. Il y a... Malheureusement, c'est le lot quotidien de l'entrepreneur. Quand nos salariés nous parlent de se serrer la ceinture, etc., moi j'ai vécu certains mois en me demandant mais comment je finis la semaine prochaine.
Monsieur, venez un peu vers nous parce que je vous ai vu passer plein de fois.
Vous étiez hier.
Alors, c'est un petit four ?
C'est feuilleté à la ventrèche et moutarde de Meaux.
Ça a l'air très nouvelle cuisine, donc c'est très bien ce que j'ai.
Qu'est-ce que vous avez ?
Peu de temps pour faire du sport et une volonté de ne pas grossir trop vite. J'ai eu la chance d'être un semi-sportif de haut niveau. Comme beaucoup de sportifs, de ne pas aimer trop grossir et de m'entretenir. Et donc du coup, je fais attention à ce que je mange aussi. Donc je suis très poisson, donc c'est très bien. Par contre, je suis très dessert, c'est plus compliqué. Mais franchement, on essaye de faire vraiment attention. C'est un gros petit déjeuner, déjeuner light et dîner light. Mais sans un morceau de sucre, quelconque chocolat ou autre dans la journée, je suis mort.
Mais vous ne voyez donc pas, Laurence Parisot, de forme d'injustice entre le traitement réservé aux uns et le traitement réservé aux autres ? Et pourquoi non ?
Est-ce que vous parlez d'injustice entre le traitement en termes de rémunération réservé à quelques grands footballeurs et à celui qui est réservé aux footballeurs plus modestes de division 2, 3 franchement, est-ce que on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de jalousie derrière tout ça ?
Non mais sans doute.
Sans doute, bien sûr. Des vies aussi merveilleuses ne peuvent faire que des envieux, mais on le voit, c'est au prix du risque, au prix du stress, au prix aussi de faire le bien aussi. Mais c'est si difficile de faire le bien. Vous savez, c'est terrible ça, quand vous, en fait, vous créez une entreprise, c'est pourquoi ? Mais oui, c'est pour vous faire aimer, bien sûr. Mais c'est aussi pour faire le bien de vos salariés qui sont. Et puis surtout, créer de la richesse, créer de l'emploi, créer de la croissance. Et voilà, et c'est pour ça que ça marche si bien. Dans nos pays, c'est à cause de ça, c'est à cause des entreprises, c'est à cause des entrepreneurs, des gens comme Sandra, chef d'entreprise.
Alors Sandra, si l'on devait tenter de vous résumer en quelques mots seulement, que dirait-on ?
Alors, je suis Sandra Legrand, j'ai créé une société en 2000 qui s'appelle Canal CE et qui est le premier prestataire de services pour les comités d'entreprise et les salariés.
Quelle trajectoire, Sandra. C'est formidable. Mais dites-nous, qu'est-ce qui a vraiment changé depuis vos débuts ?
Je crois qu'aujourd'hui, ce qui change par rapport à même l'époque où je me suis lancée moi en 2000, c'est qu'il y a beaucoup plus de réseaux avec d'une part les lois du trail qui ont lancé quand même le sujet, et puis tout ce qu'a fait Nicolas Sarkozy aujourd'hui pour les PME et la création, et les lois TEPA, tout ce qu'on connaît bien. Hervé Novelli qui reprend ça aussi de façon forte, Christine Lagarde qui cautionne aussi tout ça. Donc voilà, je pense qu'on a vraiment un esprit aujourd'hui en France depuis quelques années qui est un vrai esprit d'entrepreneur. Je crois vraiment qu'il y a un vrai état d'esprit, une vraie énergie, et que si on a envie, on trouve les moyens de faire. Voilà.
Et la solitude, Sandra, c'est pas trop dur ?
Il y a des moments de solitude, il y a des moments de souffrance. Et alors là, le mieux, c'est d'être un petit peu zen, de prendre un peu de recul, de dire que finalement, le vrai point dans sa vie, c'est sa santé. Je crois aussi qu'il faut aller dans des cocktails, aller dans des soirées, aller dans des petits déjeuners business. Le réseau, c'est un moyen de rompre un peu l'isolement. Parce qu'on vit avec ça, c'est un vrai projet de vie. Quand une boîte, hein, on ne s'arrête pas à 20h. Même si on s'arrête de travailler, on y pense jusqu'à 23h. Donc voilà, il faut tenir dans la durée. Hein. C'est pas à fond pendant un an et on craque au bout d'un an. Il faut tenir dans la durée. Donc il faut savoir aussi se ressourcer, économiser parfois. Et voilà.
Et la vie de famille dans tout ça, Sandra ?
Bien évidemment, il y a une vie de famille à gérer. Moi, je crois qu'il faut essayer de s'organiser aussi. Donc là, on peut s'organiser. Il y a aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'avoir une nourrice extraordinaire qui est depuis 12 ans avec nous. Moi, je sous-traite un petit peu tout ce qui aujourd'hui n'est pas possible pour moi. Donc c'est les courses, c'est le ménage, c'est le soutien scolaire. Hein. Je ne fais pas faire mes devoirs à mes enfants, je ne peux pas, excepté un peu le week-end. Et puis, j'ai même découvert un service Officeo qui me fait mon administratif. Voilà, c'est ce qui me manquait. Maintenant, c'est fait.
Il faut donc faire des choix. Des sacrifices.
Voilà, on ne peut pas tout avoir, ça demande des financements, c'est sûr, mais au moins, on préserve aussi un peu sa santé. Puis ces moments de loisirs, je pense qu'effectivement, il faut préserver aussi ces moments de famille, ces moments de loisirs, parce que le travail est assez prenant, donc il faut pouvoir aussi équilibrer sa vie professionnelle et personnelle. D'ailleurs, les deux vont ensemble, si on est bien dans l'un, on est bien dans l'autre, et vice-versa.
Le chef d'entreprise, c'est la force créative de l'économie. Le chef d'entreprise, c'est celui qui regarde un désert, une jungle, un paysage sauvage et qui voit un jardin, des opportunités de créer de la valeur. Ce que font les chefs d'entreprise, c'est mettre en jeu ce qu'ils ont gagné, quitte à tout perdre, et ils le font et le refont, et le refont. Prendre des risques, c'est se propulser vers l'espoir, c'est se propulser vers le futur en espérant qu'il va porter ses fruits. Si vous vous y mettez, vous serez surpris de ce que vous pourrez réussir à faire. Action Media. Sans le chef d'entreprise, l'économie serait stérile, morte. C'est le génie du chef d'entreprise, le processus créatif, le courage, l'investissement, l'intelligence, l'ouverture d'esprit, la capacité à prendre une autre direction.
Action Media, l'appel du chef d'entreprise.
Pour 2-3 scandales, que ce soit de Stock Option, de Parachute Doré ou peu importe, c'est l'image du patron, en tout cas chef d'entreprise. Alors entrepreneur, chef d'entreprise, patron, c'est tous des mots qui veulent dire un petit peu des choses différentes. Donc il ne faut pas faire un amalgame. Je crois qu'il faut que les Français fassent confiance aux entrepreneurs parce que c'est eux qui créent l'emploi. Et il y a quand même 11 millions de personnes qui veulent créer des boîtes. Et il n'y en a que 300 000 qui passent à l'acte, un peu plus, 326 000 cette année qui passent à l'acte. Donc j'ai envie de dire, il y a quand même aujourd'hui un différentiel fort entre les intentions et les réalisations. Donc, si on était tous volontaires pour créer 100 jobs, il y aurait moins de chômage en France, bien évidemment.
Comment faire, Sandra, pour lutter contre le manque d'audace et d'enthousiasme des salariés?
Effectivement, si les gens ne jouent pas le jeu, si on baisse les bras, si on devient plus défaitiste ou pessimiste, ben, c'est la spirale vers le bas. Donc je pense qu'on a tous une responsabilité. On recrute, on essaie de maintenir l'emploi. La croissance, c'est le meilleur indicateur pour maintenir l'emploi.
Pardon ?
La croissance, c'est le meilleur indicateur pour maintenir l'emploi.
Attendez, Sandra. J'ai pas tout à fait saisi, là.
La croissance, c'est le meilleur indicateur pour maintenir l'emploi. Maintenant, si effectivement les gens baissent les bras ou les gens ne sont pas performants ou se désinvestissent ou ne sont pas à la hauteur des ambitions de la société, à ce moment-là, ils ne restent pas dans le bateau. Mais ça paraît logique. C'est vraiment tout à fait logique.
Alors, attendez, Sandra, si je saisis bien, s'ils quittent le bateau, ça fait plouf en quelque sorte. C'est ça?
C'est du bon sens. Je veux dire, si tout le monde travaille, on garde l'emploi, on développe et on fait de la croissance, si les gens traînent des pattes ou en tout cas, ça ne marche pas.
Il n'y a environ qu'un pour cent des gens qui soient capables
really take risks, entrepreneurial risks.
De vraiment prendre des risques que prend un chef d'entreprise.
99% of the population can work for a business.
99% des gens peuvent travailler pour une entreprise
once it's established.
Quand elle est bien établie.
Only 1%
mais seulement 1%
have the courage and the ability
ont le courage et la capacité
actually
de faire le pas
make the entrepreneurial
et de devenir des chefs d'entreprise
that create those jobs.
Créateurs d'emplois.
Eh ouais, le héros des temps modernes, l'héroïne des temps modernes, c'est bien eux, les entrepreneurs et les entrepreneurs, avec un S même à la fin. Celui qui vous parle, là, qui vous parlait en américain, c'est Brian Tracy. Et c'est un conseiller en quoi donc ? Eh oui, en accomplissement personnel, auteur de nombreux best-sellers, dont Accomplissement Maximum, Parler pour gagner, stratégie de vente avancée, la psychologie de l'accomplissement. Enfin, vous voyez, c'est ça qui manque, quoi. C'est ça qui manque à tous ces paresseux, ces parasites de plus en plus nombreux qui encombrent les bureaux du pôle de l'emploi, qui sont là à faire la queue pendant des heures. Si seulement ils avaient cet esprit d'entreprendre, ce serait quand même... Et nous, ça... Alors, on est un peu embêtés à la base, si j'y suis, pour tout vous dire. Parce que l'audience de cette émission augmente. Mais on sait la raison. C'est à cause des chômeurs. Vous êtes de plus en plus chômeurs. Et l'après-midi, à rien foutre, bien évidemment, bande de parasites. Et vous écoutez la radio et vous écoutez là-bas, si j'y suis. Alors, on veut vous aider. C'est pour ça qu'on fait cette émission avec Pascal Pascariello et Renaud Lambert. C'est pour essayer de vous sortir de là. Eh ben, on va le faire. On va vous donner des conseils. Sandra Legrand va vous donner des conseils. Et tant pis si nous perdons des auditeurs. Nous préférons vous voir entrepreneur, la tête de votre entreprise, plutôt que de vous savoir traîner comme ça à des heures pareilles, hein, en train d'écouter la TSF. Sandra Legrand, interrogée par cette grande femme d'entreprise, qui est Pascal Pascariello.
Ben, moi, je leur dirais, battez-vous. Il n'y a pas de fatalité. On a toujours le choix dans la vie. Moi, je suis persuadée de ça, même si, effectivement, il y a des moments plus ou moins faciles ou difficiles. Je leur dirais, soit vous vous remettez dans une situation de recherche d'emploi pour réintégrer une société, soit vous imaginez des solutions créatives de créer d'abord votre propre job, c'est-à-dire statut auto-entrepreneur avec un business que vous commencez à développer, ou carrément créer une société avec des associés si vous ne sentez pas de le faire seul. Bah, si vous êtes une jeune femme avec des enfants bas âge, profitez-en et élevez vos enfants pendant un petit moment et l'année prochaine sera peut-être meilleure.
C'est une excellente idée.
Oui, bon, après, chacun a ses cas particuliers et sa vie privée. Mais bon, je veux dire, on peut trouver des solutions temporaires qui conviennent à tout le monde. Après, il y a des notions financières, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Mais encore une fois, aujourd'hui, on peut créer des sociétés en France, on peut être dans un statut, on va dire, un peu de SAS avant d'être vraiment entrepreneur, d'auto-entrepreneur, au moins créer son emploi. Et puis après, si on peut, on développe d'autres emplois et on crée de l'emploi. Voilà.
Eh bien, Sandra, je n'ai qu'un mot à vous dire. Merci. Merci mille fois, Sandra. Merci.
T'es qu'un con qui s'ignore. J'ai raison et t'as tort. Et je suis ton patron. Sans moi plus de pognon. Toi et tous tes copains. Vous refaites ma toiture. Vous entretenez mon jardin. Et vous lavez ma voiture. Puis tu rentreras chez toi voir ta femme et tes gosses. Et avant le repas vous bénirez le boss. Puis tu rentreras chez toi voir ta femme et tes gosses. Et avant le repas vous bénirez le boss. Le boss pour qui tu bosses, le boss pour qui tu bosses, le boss pour qui tu bosses, le boss pour qui tu bosses. T'es pas là pour penser. Déclaré. Mais si vous êtes gentil, alors je vous promets, à quart d'heure à midi, vous irez boire un verre dans votre bouche infâme de l'alcool à 60 qui vous brûlera le crâne et vous porterez un toast au boss, au boss, au boss, au boss.
Donc surtout, ne nous trompons pas, les chefs d'entreprise désirent embaucher.
Laurence Parisot dans l'émission Rue des Entrepreneurs sur France Inter, le 3 septembre 2005.
Mais qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, dans bien des cas, embaucher est un risque qui est parfois quasi mortel, parce que le coût du travail est élevé et parce que nous avons un environnement juridique mais aussi psychologique qui n'est pas favorable à l'entreprise. Et j'insistais, puisque le mot précarité est un mot à la mode, qui a pour objectif de nous empêcher de réfléchir, et j'ai voulu expliquer que la précarité était une loi de la condition humaine. Parce que se dire, ou laisser croire à tout le monde, aujourd'hui en France, que nous pouvons entrer dans un métier, prendre un emploi et le garder quasiment à vie, ça aussi c'est de l'utopie. Ou alors c'est de la fonctionnarisation, c'est proche de l'utopie communiste et on a vu comment elle s'est terminée.
Hop là, il arrive.
Monsieur Olivier Pardon. Dassault.
Bonjour.
Pascal Pascarello, France Inter.
Oui, très heureux.
C'est quoi un bon entrepreneur? Il faut être comment pour être entrepreneur? C'est quoi?
Je crois qu'il faut quelque part être un peu fou. Mais fou, pas au sens de la déraison, fou au sens de la passion. C'est-à-dire qu'il faut être fou et très cartésien. Bon. C'est un peu comme dans les films. Il y a des tas d'histoires dont on parle trop peu, qui sont des histoires de créateurs, de création d'entreprise. C'est aussi ça qu'on veut mettre en exergue, c'est ça dont on veut parler à une époque où malheureusement on parle plutôt de ce qui se délocalise, de ce qui se ferme, parce que c'est grand, parce que c'est des entreprises qui ont des noms connus, et donc on parle plus des gens connus que des gens pas connus. Bon, et moi ce que je veux, c'est faire connaître ceux qui ne sont pas encore connus et qui seront connus demain.
Tout à l'heure, vous me parliez aussi d'un fait que j'ai bien remarqué, puisque moi j'avais eu l'occasion de pouvoir interviewer votre père, oui. Serge Dassault, oui. Enfin d'essayer de l'interviewer, et il y avait quelque chose qui était intéressant aussi, c'est le fait de se dire peut-être que maintenant, à l'heure à laquelle on vit, en 2009, il faut arrêter avec des idées de communisme.
Oui. Ah oui, Là, vous avez tout à fait raison, mais c'est même pas une opinion personnelle, c'est une opinion qui nous revient en boomerang du monde entier. Quand on voit aujourd'hui la réussite de la Russie, lorsqu'on voit aussi la réussite de la Chine, tous ces pays, à part la Corée du Nord et Cuba, qui ont renoncé au communisme, en comprenant que c'était pas le meilleur système du monde pour rendre les gens heureux. Et en France, on a toujours un parti communiste, on a toujours des Vitkacleville dirigés par des communistes. Bon, ceci dit, les communistes ont moins de succès, ils sont un peu dépassés par l'extrême gauche, la Ligue communiste révolutionnaire, avec à sa tête quelqu'un qui a un visage d'ange et qui en fait est un vrai démon. qui a une dialectique d'ailleurs assez remarquable, mais qui ne contribue pas véritablement au développement et au bonheur des gens.
Alors voilà quelqu'un de précaire, Olivier Dassault, ce que disait Laurence Parisot. La précarité, c'est une des lois de la condition humaine. J'ai noté la phrase parce que moi, j'aime bien réfléchir, j'aime bien les penseurs. Et la précarité est une loi de la condition humaine. On est tous précaires. Et oui, vous voulez pas être précaire, vous respectez pas la loi de la condition humaine. Voilà. Vous êtes là, vous voulez être planqué, toujours faire la même chose, comme des robots. Non, on est précaire, on n'est rien, on est des fétus. Regardez Olivier Dassault, c'est un précaire. Et alors, quant au communisme, alors là, ça c'est l'horreur totale. Heureusement qu'on a abandonné cette utopie, puis on sait à quoi ça a conduit. Hein. Alors ça...
Moi, mon rêve, ce serait qu'un jour, il y ait un feuilleton à la télé qui soit l'équivalent de ce que l'Instit a été pour le monde de l'éducation nationale. Inventons un feuilleton, l'entrepreneur.
Il y avait une chose qui effrayait tous les patrons. Les charges.
Ah oui, je n'ai pas eu une seule exonération patronale depuis 18 mois alors.
Pour Lawrence Jones, c'était toujours la même histoire. Ils essaient encore de te refourguer des CDI, c'est ça?
Georges, tu te souviens de Lawrence? Elle se fouettait le dos avec le code du travail sur ta pelouse.
Elle est belle. Elle prend des risques. Mais elle est écrasée par les charges. Et elle est seule. Le journal de Lawrence Jones. Une patronne à la dérive.
BFM, midi 15h, le 12-15, Edwige Chevrillon.
Xavier Darcos, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle, vous êtes ministre de l'Éducation nationale. Merci d'être dans les studios de BFM. Beaucoup d'actualités. Là, vous sortez à l'instant de l'association 100 000 entrepreneurs où vous avez annoncé des mesures pour essayer de réconcilier, on va dire, le monde de l'entreprise. C'est pour ça que vous êtes sur BFM, le monde de l'entreprise et l'Éducation nationale. J'ai envie de dire, c'est pas trop tôt. Vous avez même invité Laurence Parisot, la présidente du MEDEF, à vous accompagner dans cette démarche.
Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif, c'est, du point de vue de l'Éducation nationale, c'est de faire connaître la réalité du monde de l'entreprise. Et d'ouvrir en quelque sorte des perspectives moins inquiètes parfois de la part des jeunes vis-à-vis du monde d'entreprise.
Et donc, une réticence, on va dire.
Mais enfin, souvent, ils se méfient. Ils disent, c'est quoi montrer le travail. Donc voilà, les conventions sont signées, des stages sont obligatoires dans les formations. C'est vrai aussi pour nos enseignants. Je rappelle que nous allons rendre obligatoire maintenant dans la formation en UFM un stage en entreprise. On considérerait aujourd'hui que les choses vont très bien.
La réticence, est-ce qu'elle ne vient pas aussi du monde professoral? On sait que l'économie, et c'est une spécificité française par rapport à ce qui se passe dans le monde anglo-saxon, l'économie est quand même très mal enseignée à l'éducation nationale. Je dis très mal dans le sens où souvent c'est toujours un peu en négatif, c'est-à-dire on apprend la bourse en parlant du krach de 29, donc qui n'était pas forcément le meilleur moment de l'histoire boursière. Il y a des côtés négatifs, évidemment, mais il y a aussi des côtés positifs. Est-ce qu'il ne faut pas changer la manière dont on enseigne l'économie dans les écoles?
Oui, sans aucun doute. Il faut que la réflexion sur l'économie ne soit pas seulement une réflexion sur les sciences sociales, mais qu'elle montre comment marche l'entreprise, comment on fait des bénéfices et pourquoi. Tout simplement parce que nous en avons besoin.
Eh oui, on en a besoin. On en a besoin. Et comment ça se passe?
Comment ça se passe? Je veux dire, comment mettre l'entreprise au cœur de la cité, au cœur de nos vies? Eh bien, c'est une affaire de pédagogie. Voilà pourquoi on entend le ravissant Xavier Darcos au micro d'Edwige Chevriot sur BFM Radio. Alors comment ça se passe effectivement dans la classe? On sait qu'il y a des chômeurs qui nous écoutent, mais il y a aussi des enseignants très très nombreux, dont Sébastien Mainviel, 33 ans, enseignant en primaire à Bordeaux, qui a participé à un stage organisé par le MEDEF et l'inspection académique de son département. Un stage destiné à sensibiliser les enseignants aux réalités du monde de l'entreprise. Et comme ce Sébastien Mainviel est un AMG, c'est-à-dire un auditeur modeste et génial, eh bien, il a emmené un micro dans le stage.
Sébastien Mainviel, donc enseignant dans une classe de CM2, j'ai 33 ans. J'ai vu apparaître un jour dans une salle des professeurs un papier en tête MEDEF Éducation Nationale, une sorte de partenariat, avec dans l'intitulé d'un stage qui était proposé aux enseignants une semaine, donc largement remplacée, en entreprise pour les enseignants, avec pour objectif premier de faire témoigner en fait les enseignants auprès de leur classe de l'épanouissement personnel que peut avoir un employé à son poste de travail.
C'est ça. Donc l'objectif final du stage, c'était bien les élèves. On cherchait à sensibiliser les enseignants pour que eux-mêmes parlent aux élèves.
Voilà, le MEDEF n'était pas totalement satisfait de la formation donnée par l'Éducation nationale. En effet, le MEDEF a donc donné ses consignes pour l'Éducation nationale avec l'aval de l'inspection académique, puisqu'il y avait un représentant durant ces stages de l'inspection académique. Donc, ils n'ont pas l'intention vraiment de vouloir avoir des employés formés, critiques, des citoyens, mais plutôt, et c'est dit textuellement par le directeur, le président du MEDEF Aquitaine, donc d'avoir vraiment au sortir de l'école, des élèves qui puissent être, il le dit, polis donc, et adaptables. Pour la formation, les entreprises ont dit qu'elles s'en chargeraient personnellement. On est tutelé par le chef d'entreprise directement, qui se détache de ses obligations durant 3 jours pour vraiment nous présenter toutes les strates de l'entreprise avec beaucoup d'égards. Et après ces 3 jours, on se rend compte quand même très rapidement qu'il y a un stress ambiant dans les entreprises, que ce soit au niveau des employés, même s'ils n'en parlent pas, ils ont beaucoup de mal à en parler, puisque le chef d'entreprise ne nous lâchait absolument jamais tout seul dans les rayons. Il essaie de se valoriser beaucoup, c'est normal, donc il me présente la bonne facette. C'est surtout cette idée que le chef d'entreprise est vraiment le leader et qu'il a une mainmise totale sur l'entreprise. Et donc, il y a une espèce d'objet de fascination qui se met en place petit à petit avec le chef d'entreprise, où on voit tous ses employés très déférents, très, très dociles avec lui. Donc, il y a tout cette idée-là qui se dégage de ce stage. Le stage n'est pas du tout orienté sur l'esprit d'initiative à développer chez les élèves, mais bien sur l'employabilité maximum. On est bien sur un format, qu'est-ce que le chef d'entreprise emploie comme personne actuellement. Donc voilà, vous en tant qu'enseignant, qu'est-ce que vous devez former comme futurs employables.
C'est pas les chefs d'entreprise sont merveilleux, travailler pour devenir chef d'entreprise, c'est les chefs d'entreprise sont merveilleux, travailler pour pouvoir travailler pour un chef d'entreprise.
Voilà, exactement. Et plus sur qu'est-ce que vous devez faire vous en tant qu'éducation nationale pour préparer les élèves à intégrer une entreprise, évidemment au statut d'employé et pas de dirigeant, loin de là.
Vous, ça vous a intéressé ce stage ?
Ah oui, ça m'a intéressé, plutôt deux fois qu'une. Du coup, j'y suis allé avec un micro, sous le prétexte de vouloir témoigner auprès de mes collègues qui n'avaient pas eu la chance de participer à ce stage. Donc, j'ai ouvert un micro durant les briefings et débriefings et j'ai pu enregistrer justement les propos de monsieur le président du MEDEF Aquitaine, madame la déléguée du MEDEF donc Périgord, et puis le représentant d'inspection académique, parce qu'il était là aussi en train de valider toutes les propositions qui étaient faites.
L'entreprise, elle est d'abord acteur économique. C'est-à-dire qu'elle peut faire du social si elle a les moyens de le faire.
Le représentant du MEDEF.
Et le moyen, c'est l'activité économique.
Pendant le stage. Puis,
deuxièmement, vous avez des chefs d'entreprise qui ont plus ou moins cette fibre-là. Moi, je prends, vous savez, toujours l'exemple, c'est un peu caricatural, mais vous avez des entreprises qui recrutent beaucoup de jeunes, qui font beaucoup de formations, qui font plein de choses très sociales et qui perdent de l'argent. Et vous avez des entreprises qui font rien de social et qui gagnent de l'argent. Si on pousse le paradoxe jusqu'au bout, dans quelle entreprise vous mettez de salariés ? Donc je veux dire par là qu'il ne faut pas oublier de perdre de vue que le rôle d'une entreprise, c'est d'abord de faire du profit.
Moi, ça a été très intéressant parce que c'est vrai que j'ignorais complètement ce que c'était que le monde de l'entreprise.
L'une des enseignantes ayant participé au stage lors de la réunion de clôture.
Ça a été très intéressant parce que je suis passée par tous les postes, production, etc. Et disons que moi, bon, c'est le moment que j'ai passé avec le PDG qui a été vraiment le plus enrichissant, parce que vraiment là j'ai compris à quoi on pouvait servir. Je pense que tout bon enseignant se pose toujours la question, est-ce que je les forme bien et est-ce que je les destine bien vers leur avenir, quoi. Est-ce que je vais leur donner toutes les clés dont ils ont besoin? Est-ce que, bon, on se pose tout le temps des questions. Et là, j'ai eu des réponses. C'est-à-dire que je crois que la première chose à développer chez les jeunes maintenant, c'est la motivation. Je dirais que c'est le mot essentiel. Et c'est ce que disait le PDG avec qui j'étais. Les jeunes maintenant, ils savent pas ce que c'est qu'une entreprise, ils sont pas motivés, ils sont pas intéressés. À partir de là, moi, c'est vrai que j'ai des petits, mais je crois que déjà, tout petit, on peut d'abord leur donner envie d'aller à l'école, et puis ensuite leur dire que ben, la vie, ça peut être aussi passionnant. Parce que quand on écoute un chef d'entreprise, bon, on sait qu'il y a le risque, il faut avoir un caractère quand même un peu... Il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Mais d'un autre côté, c'est tellement passionnant par moments que ben, moi, je me disais, mince, j'ai choisi l'enseignement, il y avait peut-être une voie plus intéressant, plus motivant. C'est monotone. Non, moi maintenant c'est fini. Mais bon, le métier d'enseignant, malgré tout, c'est très répétitif, quoi. Tandis qu'un chef d'entreprise dans une pub, quand j'ai vu tout ce qu'il faisait, je me dis, mais ça peut être vraiment très, très intéressant.
En grâce,
Dominique de Villepin.
Comprenons que l'économie, c'est la vie.
Sur France Inter.
Il y a des décisions qui doivent être prises tous les jours et qui s'imposent tous les jours.
Le 8 décembre 2006.
Et qui doivent être prises en fonction de l'intérêt général de l'entreprise.
Ah, intérêt général de l'entreprise. Vous avez compris, tous entrepreneurs, tous héros, tous passionnés, tous passionnants. Retour au salon des entrepreneurs avec Jean de Bonny, spécialiste des entrepreneurs et qui dirige un bureau de consulting qui s'appelle Fingerprint.
Vous savez, dans les sociétés, il y a des hauts potentiels et il y a des gens qui ont moins de potentiel. Et quelqu'un qui a moins de potentiel, ben il en faut aussi, parce que s'il y avait que des chefs, il n'y aurait personne pour être commandé. Je pense qu'il faut dédramatiser le fait d'être patron en montrant que ben, le patron, il aide les gens à révéler le talent qui est en eux. Évidemment, il les aide à vivre. Et en même temps, il peut faire révéler un potentiel que la personne peut avoir dans une politique d'essaimage. Est-ce que vous savez ce que c'est l'essaimage ?
Dites-moi.
L'essaimage, c'est quand une entreprise dit à ses salariés, je ne mets personne dehors, mais s'il y a parmi vous des gens qui ont envie de créer une entreprise, d'une manière ou d'une autre, on va les aider à créer leur propre boulot, quitte, si c'est dans le même domaine, à leur sous-traiter des choses qui leur garantissent 1, 2 ou 3 ans de chiffre d'affaires à hauteur de 30%. Alors l'inconvénient de l'essaimage...
C'est créer son propre sous-traitant.
Oui, mais on peut aussi, dans l'essaimage, quitter l'entreprise et créer un bistrot ou un salon de coiffure. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas forcément... Il y a des brebis galeuses partout. Mais très souvent, les sociétés se disent tel élément qui est bon, il a un tel profil de patron que si je fais pas quelque chose avec lui, il va partir, il va créer un concurrent. Donc si j'en crée un sous-traitant, je continue une relation très positive avec lui. Vous voyez,
c'est continue à pouvoir quand même, enfin, à le subordonner.
Oui, à faire en sorte que ça ne soit pas un concurrent, mais un partenaire. C'est un partenaire non salarié.
Ah, ça vous fait envie, ça, hein ? Oh là là ! Eh bien, on se penchera sur cette possibilité demain en nous disant tout sur l'auto-entreprise. Comment devenir un auto-entrepreneur ? Ça va être passionnant. Merci à tous. Merci à Pascal Hielo, Renaud Lambert pour ce reportage. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires, ainsi que sur là-bas.org, là-bas.org, la technique aujourd'hui. Michel Bézikian, Éric Morin, Coyenne Guyenne et Raphaël Moutarde ont réalisé cette émission assistée de Charles Perry, et Agnès Lebot attend vos messages au répondeur de là-bas, si j'y suis, dont le numéro est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.